Question politique en direct et jusqu'à 13h, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invitée aujourd'hui, c'est la ministre des dossiers chauds du moment. Elle porte la politique européenne de la France. Elle est en première ligne pour gérer le Brexit. Elle était encore à Londres jeudi et son nom revient souvent pour conduire la liste de la majorité aux élections européennes. La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, s'est installée dans le studio de questions politiques. Vos questions, vos remarques sur l'appli France Inter ou sur les réseaux avec le hashtag Question Pol.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue, une heure pour parler d'Europe, c'est important. Et pour vous interroger, l'équipe de questions politiques, Jeff Wittemberg de France Télévisions. Bonjour Jeff.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Becker de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Nathalie Loiseau, vous étiez à Londres jeudi. Nous sommes à 2 semaines avant la date prévue pour le Brexit. Est-ce qu'il est acquis aujourd'hui que le Brexit n'aura pas lieu le 29 mars ?
Ah, si c'était aussi clair, ce serait déjà un progrès. Aujourd'hui, rien n'est clair. Il va y avoir une semaine de discussions et de débats au Parlement britannique. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voit encore, ce qu'on voit depuis des semaines, c'est que les Britanniques ont dit qu'ils voulaient sortir de l'Union européenne sans dire clairement où est-ce qu'ils voulaient aller. Nous les attendons. Il leur revient de choisir entre une séparation en douceur, qui est possible, sur laquelle on a travaillé depuis 2 ans, ou une séparation brutale, qui n'est pas souhaitable, mais qui risque d'arriver si rien ne se passe.
Est-ce qu'il faut leur laisser plus de temps pour préparer leur sortie, Nathalie Loiseau ?
La question, c'est plus de temps, pourquoi faire ? On a eu 2 ans. On s'est parlé pendant 2 ans, on a discuté pendant 2 ans de tous les sujets de la séparation. S'il n'y a rien de nouveau, plus de temps n'apportera rien que plus d'incertitude. Et l'incertitude, ça crée l'inquiétude. J'étais à Londres, vous l'avez dit, j'étais auprès des Français du Royaume-Uni,
oui,
notamment.
Et ils sont nombreux, particulièrement à Londres.
Ils sont inquiets parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ce qu'il faut, c'est se décider. C'est pas du temps dont on a besoin, c'est d'une décision.
Mais là, vous avez un discours un petit peu ouvert, Karine. Alors que cette semaine, à Londres, vous avez dit, voilà, c'est le seul accord possible
Bien
avec
sûr.
L'Union européenne. On a le sentiment que, voilà, c'est joué, il n'y a plus de conditions Brexit à négocier pour les Anglais. C'est,
alors,
oui ou non ?
C'est le vrai. Retrait, c'est le seul accord, l'accord qu'on a négocié, c'est le seul possible. Pratiquement 2 ans de négociation, on a regardé les sujets dans tous les sens, on s'est mis d'accord avec des concessions britanniques, des concessions européennes. C'est un équilibre qui préserve nos intérêts. Moi, ma seule préoccupation dans cette question du Brexit, c'est les intérêts des citoyens français, des entreprises françaises. C'est le seul accord possible. Si Madame May vient cette semaine avec une nouvelle idée sur le futur de notre relation, si elle nous dit finalement, j'avais fermé la porte sur beaucoup de choses, j'ai envie de la réouvrir, j'avais fermé la porte sur le non-douanière, j'avais fermé la porte sur le marché unique, mais tout bien réfléchi, je n'arrive pas à avoir de majorité telle que je m'y suis prise, je change tout. On serait stupide de lui dire non. Mais il faut qu'il y ait une idée claire, il faut qu'elle soit crédible, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait une majorité. Mm-hmm. Pour le moment, ce qu'on voit au Parlement britannique, ce sont des majorités contre, jamais des majorités pour. C'est le référendum qui continue depuis 3 ans. Un référendum, ça exprime bien qui est contre quelque chose, moins qui est pour.
Françoise.
Est-ce que du côté britannique, il n'y a pas le pari de se dire au dernier moment, au fond, l'Europe va peut-être se diviser et me laisser une porte de sortie ? Cette hypothèse-là, elle existe ou pas ?
Écoutez, ça fait 2 ans que peut-être certains ont fait le pari sur la division de l'Europe. Et ça fait 2 ans qu'ils se sont trompés.
C'est l'un des rares sujets sur lesquels les membres de l'Union sont
en tout cas,
sur la même ligne.
Michel Barnier a réussi à réunir les 27, pas contre le Royaume-Uni. C'est pas une négociation contre les Britanniques, mais autour
un petit peu
de ce
même.
Qui nous ramène. Non, on est là pour protéger nos intérêts. Mmh. On est là pour...
Pas leur rendre la vie facile quand même non plus.
Non plus. On est là pour mettre en œuvre la décision britannique, parce qu'on peut la regretter, mais on doit la respecter. Tout le travail qui a été fait, c'est pour que la séparation puisse se faire en douceur, avec le moins de dégâts possible. C'est à ça que je consacre la moitié de mon temps. Donc c'est un plein respect de la décision britannique. Mais si les Anglais ont décidé de sortir, nous n'avons pas décidé de dynamiter l'Union européenne. Donc chacun respecte l'autre.
Jeff,
puisque vous dites qu'on rejoue le référendum finalement qui a eu lieu il y a 2 ans, est-ce que la seule solution aujourd'hui, comme le préconisent d'ailleurs certains leaders britanniques, ce ne serait pas de revoter, de refaire un référendum au Royaume-Uni ? Et puis par ailleurs, est-ce que ces affres du Brexit, ça ne renforce pas, à contrario, l'idée européenne, est-ce que ça ne va pas dissuader définitivement d'autres pays de sortir de l'Union.
Nathalie Loiseau.
C'est pas à moi de dire aux Britanniques ce qu'ils doivent faire. Ils ont décidé en 2016 qu'ils sortaient de l'Union européenne. S'ils veulent décider différemment, libre à eux, et ce n'est pas non plus à nous de leur dire non. Mais pour le moment, ce que je vois et ce que j'essaye d'interpréter et de traduire, c'est la décision britannique de quitter l'Union européenne. S'il y en a une autre, on verra.
Il faut dire que personne n'imaginait que ce serait si compliqué. Honnêtement,
on n'y arrive pas.
Objectivement,
ce que vous dites,
ni les Britanniques probablement, ni même les membres de l'Union européenne.
Ce que vous dites tous les deux, c'est que beaucoup n'avaient pas bien mesuré ce que ça voulait dire d'être dans l'Union européenne, ce que ça avait construit au fur et à mesure comme intensité des liens. Et quand les Britanniques nous disent aujourd'hui, nous sortons, mais nous voulons que ce soit aussi intense, c'est très compliqué, c'est même impossible. On ne peut pas être dehors avec la même imbrication, avec les mêmes partenariats que quand on est membre de l'Union européenne.
Et en même temps, on ne peut pas se passer des Britanniques qui sont notamment cruciaux sur le plan militaire.
Donc nous n'avons pas cessé de le dire. Nous avons une coopération entre la France et le Royaume-Uni en matière de défense qui est très forte, que non seulement nous préservons, mais que nous développons. C'est aussi ce que dit Emmanuel Macron dans la tribune qu'il a publiée cette semaine.
On va en parler après
dans la presse européenne. Il dit il faut, sur les grandes questions de sécurité et de défense, continuer à parler avec les Britanniques avant de prendre des décisions. Donc c'est tout à fait vrai.
Karine.
Alors il y a quand même cette hypothèse du no deal, c'est-à-dire sortir sans accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ça inquiète malgré tout le monde. C'est-à-dire même nous, du côté de l'Union européenne, on se demande ce qui peut se passer après un no deal avec les Anglais pour la question de défense, mais pour plein d'autres sujets. Il y avait cette semaine dans la presse des inquiétudes pour toute l'industrie automobile. On peut penser aussi à Airbus, qui est en partie, des Airbus en partie construits aussi un peu avec le Royaume-Uni. Donc qu'est-ce qui va se passer?
Et est-ce que la France est prête?
Alors on s'y est préparé, et je vais même vous dire, on s'y est préparé depuis avril 2018. En avril 2018, je suis allée voir le Premier ministre en lui demandant qu'on se prépare à l'hypothèse d'une absence d'accord, parce qu'en voyant les différents acteurs, en voyant les positions, je pensais qu'elles devenaient plausibles. Non pas souhaitables, mais plausibles. Donc nous sommes le pays qui avons commencé le plus tôt à nous préparer, et aujourd'hui nous sommes prêts. J'ai fait passer une loi au Parlement, ensuite un certain nombre de textes d'application ont été préparés, on a recruté des douaniers, des vétérinaires, on a créé des aires de stationnement à Calais, à Dunkerque, à Cherbourg. Je me suis rendue dans tous ces lieux, non seulement parce que quand on fait un texte, ça, c'est finalement le plus facile, mais il faut aller voir ensuite sur le terrain ce que ça veut dire pour les différents acteurs économiques.
Le pêcheur du Nord qui a l'habitude de vendre partie de sa pêche au Royaume-Uni.
C'est pas tout à fait ça. Le pêcheur du Nord, il a l'habitude de pêcher dans les eaux britanniques.
Oui.
Depuis des siècles, en réalité. Mais depuis quelques décennies, c'est le droit européen qui le lui permet. Il faudra qu'on puisse recréer ça derrière, après la sortie du Royaume-Uni.
Le 30 mars, Madame Loiseau, pour un Français qui habite à Londres, ou pour un Britannique qui habite en France, qu'est-ce qui change? Est-ce que la vie continue comme avant, ou désormais il doit aller pointer, être considéré comme un étranger, alors qu'aujourd'hui il est membre de la famille européenne?
Ils deviennent étrangers les uns aux autres, ce qui est absurde, humainement totalement... pas satisfaisant, mais nous avons fait en sorte que pour les Britanniques, par exemple, qui vivent sur notre sol, qui sont plusieurs centaines de milliers, qui vivent, qui étudient, qui enseignent, il y a beaucoup d'enseignants britanniques en France,
qui ont des résidences secondaires,
qui ont pris leur retraite, qui sont tombés amoureux, enfin, qui vivent en France.
Vous n'allez pas les punir d'être tombés amoureux.
Nous voulons qu'ils restent. Ils sont les bienvenus, c'est une richesse pour la France. Nous voulons qu'ils restent, nous leur avons dit, d'ailleurs, bientôt je vais faire une rencontre avec les représentants des Britanniques en France, ils auront un an pour faire les démarches nécessaires pour avoir carte de résident. Jusqu'à maintenant, ils n'en avaient pas. Il faut évidemment qu'ils en aient une. On leur donne un an, on reconnaît leur diplôme, leur qualification professionnelle, leur expérience professionnelle. Même chose pour des Français qui reviendraient du Royaume-Uni, pour pouvoir prendre en compte toutes ces années passées pour avoir cotisé, pour l'assurance chômage, pour leur retraite, tout ça, on le prend en compte. C'est ça la loi que j'ai fait passer, c'est ça les textes qu'on a adoptés derrière. Faire en sorte de ne punir personne de cette situation absurde qu'on risque malgré tout rencontrer.
Et surtout pas les amoureux, surtout ne pas punir les amoureux. Situation absurde, on aura l'occasion d'en parler, puisque malgré tout c'est un choix qui a été fait démocratiquement. C'est ensuite les conditions du divorce qui sont difficiles à négocier.
Et les conditions de la campagne du référendum de l'époque où on a quand même beaucoup menti, et ça il faut s'en souvenir.
La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, est l'invitée de Questions politiques ce dimanche.
France Inter, Ali Badou, Questions politiques.
Votre portrait, Nathalie Loiseau, signé Karine Bécard.
Nathalie Loiseau, il avait d'abord été question de Daniel Cohn-Bendit, cette figure historique, en tout cas emblématique, pour être aux élections européennes la tête de liste macroniste. Et puis Jean-Yves Le Drian, ministre régalien depuis maintenant 7 ans, avait été évoqué, mais il est vrai, relativement rapidement. Sans oublier Alain Juppé, qui lui aussi avait semblé être souhaité, mais qui, comme les autres, a préféré élégamment refuser. Bref, après toutes ces déconvenues, le président Macron pourrait finalement miser sur une femme assez peu connue. Vous, Nathalie Loiseau, une diplomate passée par Sciences Po et par les Langues Eaux. Premier poste en Asie, à Jakarta, en Indonésie, Dakar et Rabat ensuite, c'est-à-dire l'Afrique, sans oublier Washington. Vous y êtes envoyé à un moment clé quand Jacques Chirac dit non aux Américains à la guerre en Irak. Et partout, pendant 26 ans, Nathalie Loiseau, avec cet air de ne pas y toucher, vous avez su manœuvrer et faire avancer les dossiers. Même opiniâtreté pour décrocher plus récemment la direction de l'ENA à 48 ans, vous avez espéré y introduire des profils un peu plus variés. Mais reconnaissez objectivement qu'au bout de 5 ans, cela n'a pas vraiment fonctionné.
Et donc il faut être attentif à ce que les élèves que nous recrutons soient représentatifs pour être légitimes et aussi pour que l'école fasse venir une diversité de talents.
Alors jusqu'ici, vous n'avez été que 2 femmes à piloter l'ENA. Mmh. Et avant cela, elles ont été tout aussi rares, celles à qui l'on a confié, comme à vous, la direction de toute l'administration du ministère des Affaires étrangères. En fait, c'est Alain Juppé qui avait fait de vous à 29 ans sa conseillère, qui vous a nommé 18 ans après Nathalie Loiseau, tout en haut du Quai d'Orsay. Naturellement, vous l'avez soutenue à la primaire de la droite, qu'il a finalement perdue, et tout aussi naturellement, vous vous êtes rapprochée d'Emmanuel Macron après l'échec de votre patron. Voilà comment la juppéiste, même si c'est abusif, a fait son entrée à 53 ans dans l'arène politique.
Je veux assurer ici la représentation nationale que l'application provisoire de l'accord n'aura lieu qu'après que la commission scientifique aura rendu son avis, de façon à ce que nous puissions tirer toutes les leçons de ces recommandations.
Alors, vous apparaissez très technique dans l'hémicycle ce 19 juillet 2017, c'est-à-dire un mois après avoir été nommée ministre. Aujourd'hui, Nathalie Loiseau, allez savoir quelle mouche vous a piqué. Vous osez cogner. Matteo Salvini et Marine Le Pen sont devenus depuis 3 mois vos cibles préférées. En réalité, vous vous êtes transformée, une mue s'est opérée et vous êtes devenue, à 2 mois et demi des élections européennes, l'une des très rares ministres vraiment politique.
Réaction Nathalie Loiseau.
Écoutez, je ne sais pas, c'est toujours étrange d'entendre parler de soi, c'est toujours un peu embarrassant, et puis bien sûr on est d'accord et pas d'accord en même temps.
C'est la règle du jeu.
C'est la règle du jeu, voilà. Je ne sais pas si j'ai changé, peut-être que le regard sur moi a changé. J'ai aussi pris mon temps, quand je suis devenue ministre, d'apprendre ces nouvelles fonctions, parce que j'étais nouvelle en politique, c'est vrai. Je ne suis pas une politique de carrière, je ne suis pas une vieille politique madrée ou rouée. Je suis venue pour essayer de changer les choses.
On a l'impression que ça commence à vous plaire, en fait, d'être politique.
Ah, attendez, ça m'a plu au premier jour, sinon j'aurais continué à faire ce que je faisais avant.
Françoise.
Et donc, question toute naturelle, est-ce
oui.
que vous allez conduire la liste?
Ça fait maintenant 17 minutes qu'on a commencé.
Allez-vous conduire la liste de La République En Marche et même du Modem et élargi aux élections européennes?
Je ne suis pas candidate et le président ne me l'a pas demandé.
Dites oui,
je l'ai
comme
déjà
ça,
dit,
on l'arrêtera de vous poser la question.
Je l'ai déjà dit, je crois 18 fois, je n'ai pas vraiment compté.
Oui, mais un jour, vous finirez par répondre oui. Et ce jour-là, ouais. on se dira, mais Nathalie Loiseau, pourquoi n'avez-vous pas répondu oui plus tôt?
Écoutez, l'Europe me passionne, ça n'est pas un secret. C'est même pour ça que je suis dans ce gouvernement. Je ne suis pas du tout sûre, en revanche, que cela passionne les Français de savoir si Nathalie Loiseau est ou n'est pas tête de liste
non, mais
d'une...
De savoir nous sommes des Français et nous sommes passionnés par la question. Si
non,
on vous le propose,
déformés.
Vous irez.
Vous
sommes des Français représentatifs,
vous
Nathalie
Loiseau.
Vous
savez bien qu'aux yeux de certains, vous comme nous ne sommes pas des gens normaux. Nous sommes dans un entre-soi condamnable.
En fait, ce qui est surprenant, c'est que...
Je vais juste faire une parenthèse, parce que c'est vrai que ce que vous dites est peut-être vrai, mais dans ces cas-là, ne parlons pas d'Europe non plus, puisqu'après tout, les élections européennes, ce sont les élections où il y a le plus d'abstention, dont se désintéressent les Français. Et c'est vrai que quand on parle d'Europe à la télévision, par exemple, ou à la radio, il est rare qu'on fasse de grosses audiences. Donc votre argument pourrait se retourner contre vous.
Non, mais je vous taquinais et parler d'Europe à la radio ou à la télévision, ou comme on va le faire aujourd'hui, je l'espère.
On va le faire d'ailleurs.
C'est plus important que de parler de politique politicienne.
Parce que justement, le journal Le Monde publie récemment une grande enquête menée par Ipsos, le Cevipof et la Fondation Jean Jaurès sur les prochaines élections européennes. On y apprend que 74% des Français disent s'y intéresser, mais seulement 42% sont sûrs d'aller voter. Ouais. Et ça tombe à 30% seulement chez les moins de 35 ans. Comment l'expliquez-vous ?
Alors, ça n'est pas nouveau. C'est déjà le cas des élections de 2014, où les moins de 25 ans ont été moins de 30% à voter, c'est ça. Où il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes votent moins que les hommes. Je ne me l'explique pas du tout. Ce que je vois, c'est le résultat. Une élection où peu de femmes et peu de jeunes ont voté, une élection où peu de Français ont voté, et où le premier parti de France, ça a été le Front National.
Alors que jamais peut-être il n'y aura eu autant d'enjeux pour des élections européennes que pour celles qui arrivent. C'est la première fois depuis qu'il y a des élections européennes qu'on n'en connaît pas exactement l'issue, qu'on ne pense a priori pas que le PPE et le PSE formeront la prochaine majorité, ou en tout cas se partageront les rênes du pouvoir au Parlement européen. Il y a certaines certitudes là, le Parlement a plus de pouvoir que jamais, et malgré tout, il y a cette abstention qui se profile.
La campagne n'a pas commencé. Les Français ont la tête ailleurs. Les Français ont la tête au grand débat, à des sujets, je vais dire, plus intérieurs, plus nationaux. Mais vous avez raison. Jamais ces élections n'auront été à la fois aussi politiques et aussi européennes. Et je crois que les Français vont s'en apercevoir.
Mais là, vous pouvez l'expliquer très concrètement, Françoise, notamment sur en quoi voter pour tel ou tel parti au Parlement européen peut changer concrètement les choses en Europe. Parce qu'on a toujours l'impression que le Parlement, au fond, tout est acquis, que les postes sont déjà négociés à l'avance. Qu'est-ce qui peut changer cette fois-ci à cette élection ?
Pendant des années, les élections européennes étaient ennuyeuses et le Parlement européen était ennuyeux parce que, comme vous l'avez dit, il y avait une sorte de co-gestion entre la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle qui se répartissait les postes à tel point que les dernières élections, c'est 2014. On a un mandat de 5 ans. Comment est-ce que je peux expliquer à un Français que dans le même mandat de 5 ans, il y a eu d'abord un président socialiste au Parlement européen et puis ensuite un président de la droite berlusconienne sans que les électeurs aient été consultés.
Mais que ça a été dealé.
Mais bien sûr.
Entre groupes au Parlement européen.
C'était de la co-gestion, de la copropriété. Je prends des postes, je grossis. Regardez ce qui se passe avec la droite traditionnelle au Parlement européen. Vous avez des modérés qui siègent dans le même groupe que les nationalistes de Viktor Orban. Ça commence tout juste à quelques semaines des élections européennes à poser problème, alors qu'ils siègent ensemble depuis 8 ans, que depuis 8 ans, de manière systématique, Viktor Orban combat les libertés, combat la liberté de la presse, combat la liberté de l'enseignement supérieur, combat la liberté des ONG. La droite traditionnelle n'y a pas vu malice. Encore très récemment, les Républicains en France, qui d'ailleurs ne se prononcent pas contre l'exclusion du parti hongrois, ont dit « c'est l'enfant terrible de la famille ». Pourquoi ? Parce que ça permettait d'être nombreux et de se répartir les postes. Je ne peux pas critiquer des Français qui se seraient dit à l'époque « ça n'a aucun intérêt d'aller voter pour ça ».
Ah oui, les chefs d'État non plus ne se sont pas prononcés, Nathalie Loiseau. On ne peut pas les blâmer seuls sur l'exclusion éventuelle de Viktor Orban.
Ah, écoutez, la France, alors c'est pas à nous de dire ce qui doit se passer à l'intérieur d'un parti auquel nous n'appartenons pas, mais sur le recul de l'état de droit, la France n'a pas cessé de se prononcer. C'est ma fierté. C'est notre fierté.
Alors, qu'est-ce qui peut changer à la prochaine élection ? Expliquez-nous très concrètement.
Même chose que ce qui se passe partout en Europe, c'est-à-dire que les partis traditionnels sont en perte de vitesse, qu'il y a un bouleversement politique que l'on constate partout à travers l'Union européenne, avec des risques, c'est-à-dire la montée des nationalistes. On voit en Allemagne le parti d'extrême droite, l'AfD, qui a gagné des points dans tous les Länder allemands. On voit des nationalistes au pouvoir dans un certain nombre de pays, mais aussi on a vu émerger en France une offre progressiste nouvelle avec Emmanuel Macron et avec En Marche. Ça veut dire que demain, au Parlement européen, c'est pas la co-gestion entre deux gros partis vieux et fatigués, c'est au moins 5 groupes de taille comparable, et ça veut dire que les choses vont bouger.
Oui, mais cette liste progressiste, pour l'instant, elle est mesurée à 22% dans les sondages.
Elle est donc incontournable.
Oui, mais ça reste quand même très faible. On se demande
Emmanuel Macron, le parti...
Oui, mais attendez, Emmanuel Macron, le parti présidentiel, ouais, qui est très pro-européen, qui veut effectivement redonner, redorer le blason de l'Europe, honnêtement, quels moyens il aura quand on pèse 22% dans son propre pays ? Qu'est-ce qui va changer, en fait, dans l'Europe, en fait ?
Nathalie Loiseau.
Nous serons incontournables. Aujourd'hui, il n'y a pas de député européen macroniste. Ou, pardon, justement, il y en a un.
Pascal Durand ?
Jean Arthuis.
Ah oui.
Qui s'est déclaré proche de, enfin, qui a adhéré à La République En Marche. Donc, nous arrivons au Parlement européen dans un hémicycle où les sortants, ce sont d'abord l'extrême droite de Madame Le Pen, les Républicains de Monsieur Wauquiez, et dans une moindre mesure, le Parti Socialiste, qui aujourd'hui arrive en ordre dispersé à la bataille européenne.
Voilà, vous serez une vingtaine. Il y aura une vingtaine d'eurodéputés macronistes.
J'espère que c'est la liste qui arrivera en tête aux élections européennes. Et nous parlons d'un chiffre de sondage alors que la campagne n'a pas commencé.
Mais comment vous, tout ça comment vous pensez concrètement
en étant incontournable, rien ne devrait pouvoir se faire sans ces progressistes. Et puis, parlons-en, la tribune d'Emmanuel Macron cette semaine dans la presse européenne. Nous parlons aux citoyens européens parce qu'il y a partout à travers l'Europe une lassitude, une envie de changer cette Europe qui ne marche pas, une envie de bousculer ces partis assis confortablement sur leur siège européen qui n'ont rien fait de ce qu'on attendait. Et c'est à eux qu'on parle.
On vous entend ce matin et on a vraiment la sensation, je pense que les auditeurs aussi, que vous êtes déjà tête de liste. Personne ne peut croire qu'il n'y a pas déjà un embryon de liste qui circule à La République En Marche, alors que tous les autres partis ont déjà leur tête de liste. Vous êtes l'exception. Le scrutin arrivera plus tard que le Brexit, mais enfin, c'est quand même le 26 mai. C'est aussi une échéance. Vous avez dit, il y a quelques jours dans le Cotentin, vous étiez allé voir des pêcheurs. J'adore faire de la politique, répondre aux adversaires, ne pas craindre de se faire engueuler, mais c'est presque une déclaration de candidature. Et vous le confirmez ce matin. Est-ce que vous admettez que vous en avez envie, au moins ?
C'est le rôle d'un ministre de faire de la politique, sinon j'aurais fait autre chose. J'avais une vie avant. Je ne fais pas de la politique par carriérisme. Ce n'est pas quelque chose à quoi je me suis abonnée. C'est mon rôle de vous dire ce que je vous dis ce matin, d'être au gouvernement, de défendre des idées, de les défendre tous les jours.
Alors on l'a entendu, on va parler de ces idées, justement. Deux questions rapides avant de parler de ces idées de ce que propose le président de la République dans cette tribune qui a été publiée dans de nombreux journaux de la presse européenne. On sait que l'Union souffre d'un vrai déficit démocratique. Pourquoi ne pas lier les élections européennes et le choix du président de la Commission ? Pourquoi est-ce que le président de la Commission européenne ne devrait pas être le candidat du parti européen qui arrivait en tête aux élections européennes ? Ce qui paraîtrait logique, mais qui ne semble pas être si logique que ça quand on s'appelle Emmanuel Macron, Nathalie Loiseau.
C'est arrivé une fois, ce choix-là, cet automatisme-là, la dernière fois, ça a conduit à Jean-Claude Juncker. Je vous demande de faire un micro-trottoir et de demander aux Français s'ils ont eu le sentiment d'un bond démocratique en voyant arriver Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission.
C'est parce qu'on avait mal choisi alors le Spitzenkandidat.
Nous avons proposé qu'il y ait des listes qui soient vraiment européennes, qui aillent au-delà des frontières des pays européens, et que à ce moment-là, la tête de liste puisse être considérée comme le président de la Commission. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est chaque pays a une élection européenne qui se passe le même jour ou la même semaine que les autres, et ensuite les députés européens siègent au Parlement avec un nombre de députés qui fonction de la taille du pays. Et donc, ce que vous suggérez, c'est que le pays le plus peuplé décide de qui est président de la Commission.
Non.
Ça n'est pas du tout démocratique.
Je parlais du candidat du parti européen qui est arrivé en tête.
Oui, mais qui est arrivé en tête, qui a le plus de députés. Et vous avez le plus de députés quand vous êtes le pays le plus peuplé.
L'Allemagne est quand même forcément plus fort que l'Estonie, par exemple.
L'Allemagne a plus à dire qu'un petit pays. Moi, ça me gêne. Et
quelle serait la bonne solution, alors,
la solution, c'est celle qui est inscrite dans le traité. C'est celle qu'on a redit entre chefs d'État et de gouvernement.
Discutent entre eux et choisissent.
Mais ça, c'est opaque, quand même.
Non, pas du tout. C'est pas du tout opaque. C'est, on tient compte des résultats des élections européennes. Mais il faut aussi être capable de faire consensus avec les chefs d'État et de gouvernement. Qu'est-ce que c'est que la Commission, le Conseil, le Parlement ? Je ne vais pas vous faire un cours de droit européen, ça rase tout le monde. Mais je voudrais
aller à l'encontre. C'est intéressant de savoir comment on désigne le président de la Commission européenne.
Je voudrais aller à l'encontre aussi de ceux qui racontent n'importe quoi. Ceux qui vous disent les décisions européennes sont prises par la Commission, donc par des technos qui ne sont pas élus. La Commission, elle ne prend aucune décision. Ceux qui prennent des décisions en Europe aujourd'hui, c'est les chefs d'État et de gouvernement, par délégation leur ministre, donc le Conseil européen, et le Parlement européen, qui est élu par les Européens, par les citoyens européens. La Commission, c'est l'administration. Elle met en œuvre les décisions qui ont été prises par les chefs d'État et de gouvernement et par le Parlement. Ça veut dire qu'il faut qu'elle puisse travailler avec les deux.
Enfin, sur le dossier Alstom et Siemens, par exemple, c'est quand même la commissaire à la concurrence qui dit non, c'est pas possible. Donc elle prend bien une décision, là, quand même.
Elle a appliqué des règles qui sont absurdes. Elle a appliqué des règles de la concurrence qui datent du siècle dernier et qui n'ont pas été changées par ceux qui ont régné au Parlement européen, autour de la table du Conseil.
Moi, on était sur la prise de décision.
Mais je suis passionnée de voir Monsieur Bellamy nous dire que il faut changer les règles de la
Républicains.
Il faut changer les règles de la concurrence en Europe.
Pourquoi?
Bien sûr que je suis d'accord. Simplement, moi, je n'avais pas un seul député pour le faire au Parlement européen. Le PPE était là pendant 15 ans, n'en a rien fait. Et d'un seul coup, s'aperçoit que rien ne va plus et nous dit qu'il faut tout changer en Europe. Quelle est leur crédibilité? D'ailleurs, j'ai compris ce matin, si j'arrive à comprendre quelque chose, que finalement, Monsieur Bellamy ne veut pas tout changer parce qu'il est conservateur et qu'il trouve que la conservation du statu quo, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. En ce moment, en Europe, il y a ceux qui veulent détruire l'Europe. Ce sont les extrémistes, à droite et à gauche. Il y a ceux qui veulent tout garder tel quel. Ce sont les Républicains. Et puis, il y a ceux qui font un constat lucide, sévère, mais avec des propositions et un projet. Et c'est nous.
Ah oui. Alors justement, Emmanuel Macron parle de renaissance de l'Europe. Il affirme un leadership sur cette renaissance de l'Europe. Quand on regarde les réactions en Europe, après le discours d'Emmanuel Macron, c'est assez faible quand même. Est-ce que, au fond, quand Laurent Wauquiez dit « Mais de quel droit on donne des leçons quand on voit l'état de nos finances publiques ?» Est-ce qu'il n'y a pas un côté « J'y vais un peu fort et par rapport à mes partenaires »
Vous trouvez que l'Europe va bien ? Vous trouvez que l'Europe va bien ?
Non.
Vous trouvez qu'il faut se taire ?
Mais est-ce que le texte permet de solutionner ?
Vous êtes vraiment en train de devenir une vraie politique, Nathalie Loiseau. Votre manière de répondre.
Vous dites est-ce que l'Europe va bien, mais est-ce que la France a les moyens de...
Vous êtes en train de vous en apercevoir, mais en fait, ça fait...
Pas du tout, mais ça c'est la stratégie. C'est la stratégie Nicolas Sarkozy. On vous pose une question et vous posez une question à laquelle on ne peut pas répondre.
Non.
Répondez tout simplement à Françoise.
Mais vous inquiétez pas, je commence par lui demander si on ne change rien, on se tait, où on ne sait pas où on va et on n'a rien à dire. Vous imaginez Emmanuel Macron, depuis presque deux ans, président de la République, disant « je n'ai rien à dire aux élections européennes ».
Non, mais attendez, on parle de l'impact. Quel impact a eu ce texte ?
Non, vous avez posé deux questions à la fois et donc j'essaie de répondre à l'une, puis à l'autre. À celle qui consiste à dire « mais pourquoi osez-vous vous exprimer ? Excusez-nous d'avoir des idées. Excusez-nous d'avoir un projet. Excusez-nous d'avoir une ambition pour l'Europe ». Emmanuel Macron a fait revenir la voix de la France en Europe. Tout le monde le lui reconnaît. Ensuite, comment est-ce que les Européens ont réagi ? Attention à l'arrogance française qui consiste à dire que quand le Premier ministre portugais dit que le texte d'Emmanuel Macron est formidable, quand le Premier ministre finlandais dit que le texte d'Emmanuel Macron est formidable, quand le Premier ministre belge, le Premier ministre luxembourgeois, la personne qui va être tête de liste pour les socialistes en Allemagne disent que ce texte est formidable, considère que ça n'est pas important.
Vous citez une tête de liste socialiste allemande, vous ne citez pas en l'occurrence la dauphine d'Angela Merkel, la patronne de la CDU, qu'on appelle AKK, qui elle a critiqué plusieurs mesures. C'est parce que j'ai pas fait allemand première langue à l'école. Aidez-moi d'ailleurs, Nathalie Loiseau, Annegret Kramp, Karen Bauer. J'arrive à le dire. Elle rejette l'idée d'un salaire minimum de la zone euro, ce que proposait le président de la République française. Elle est farouchement contre la mutualisation des dettes. Autre proposition phare d'Emmanuel Macron dans sa lettre sur l'Europe, et elle est en revanche très désireuse de partager le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, chose qu'on promet en général pendant une campagne électorale, mais qu'on oublie sitôt qu'on arrive à l'Élysée. Voilà.
Ah, on l'a jamais promis.
Celle qui sera le partenaire de la France demain, qui succédera à Angela Merkel, est plutôt sévère, et ça rejoint ce que disait Françoise Fressoze.
Et puis même, globalement...
Écoutez, elle est conservatrice, nous ne sommes pas conservateurs. C'est l'illustration type de ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a encore en Europe des gens qui pensent que tout va bien. Des gens qui pensent que la crise grecque n'a pas laissé de traces graves dans la population grecque. Moi, quand j'en continue à entendre qu'il ne faut pas mutualiser les risques, ça veut dire... on ne bouge pas, on ne change rien, et à la prochaine crise, dans la panique, on s'apercevra qu'il faut faire quelque chose.
Mais jamais les Allemands ne voudront de ça, jamais les pays qui gèrent bien leurs comptes ne voudront mutualiser les pertes et les dettes avec des pays qu'ils considèrent comme étant des cigales ou des paniers percés.
Oui, alors les cigales et les paniers percés, ils ont baissé leur salaire, ils ont baissé leur retraite, ils sont aujourd'hui en excédent budgétaire.
Non, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais les Allemands ne voudront pas.
Arrêtons de les traiter de cigales et de... Vous savez, aujourd'hui, il y a une certaine classe politique qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez et qui pense que tant que tout va bien pour elle, tout va bien tout court. La réalité, c'est que je ne sais pas quand la prochaine crise aura lieu, mais je sais qu'il y en aura une. On est dans un monde instable, dangereux. Nous avons la chance d'avoir une monnaie commune. D'ailleurs, les Français le reconnaissent à chaque fois qu'on les interroge. Ils savent à quel point l'euro nous donne de la stabilité. Mais cette monnaie commune, il faut l'accompagner de beaucoup plus si on ne veut pas qu'à la prochaine crise, il y ait une souffrance sociale comme il y a eu en Grèce, comme il y a eu au Portugal, comme il y a eu en Italie. Et c'est sans doute une des raisons de la crise politique qu'a connue l'Italie, le fait que la souffrance sociale a été considérable. Si on croit en l'Europe, il faut être capable de faire plus pour renforcer la zone euro, pour faire en sorte que ce soit un projet de partage et pas un projet de division.
Pour évoquer une proposition concrète d'Emmanuel Macron dans sa tribune, ce fameux salaire minimum au niveau européen, c'est peu ou prou ce qui avait été évoqué au sommet social de Göteborg en décembre 2017. Et depuis, Madame Loiseau, rien n'a bougé. Pourquoi, dès lors qu'Emmanuel Macron le propose, eh bien, tout d'un coup, ça devrait changer? Est-ce qu'il n'y a pas là une part d'utopie, une façon de, finalement, de séduire l'électorat, une partie de l'électorat, alors qu'on sait que c'est impossible? Jamais la Pologne ou la Bulgarie n'instituront des salaires minimums, par exemple, pour citer ces pays, comparables à ceux de la France.
Écoutez, moi, quand j'ai pris mes fonctions, on m'a dit l'Europe sociale, ça n'existe pas, ça n'est même pas la peine d'essayer. Et Emmanuel Macron m'a demandé avec Muriel Pénicaud de revoir le régime des travailleurs détachés. Tout le monde a dit ce que vous venez de dire. C'est impossible, ça ne marchera jamais, ils ne voudront pas, n'essayez même pas. Un an plus tard, on a réformé le régime des travailleurs détachés. Aujourd'hui, c'est à travail égal, salaire égal, sur le même lieu de travail.
Non mais parlons sérieusement du salaire minimum, c'est beaucoup plus intéressant.
Mais la suite, depuis, parce que c'est bien de faire une proclamation à Göteborg, ça coûte rien de faire une proclamation, on se donne bonne conscience, on rentre chez soi. Mais nous, on est sérieux, on veut mettre en œuvre ce qu'on a dit à Göteborg.
C'est une proclamation aussi de M. Macron.
Non.
Donc comment vous le mettez en œuvre concrètement ce salaire minimum?
Depuis, l'Autorité européenne du travail est créée, c'est-à-dire que les fraudes, les abus à travers l'Union européenne, aujourd'hui vont véritablement pouvoir être poursuivis. Qu'est-ce qui change en ce moment dans l'Union européenne? Moi, je voyage tout le temps, et en particulier à l'Est de l'Europe, j'y suis très souvent. Donc je parle pas depuis mon bureau ou depuis l'hémicycle de l'Assemblée nationale, je parle depuis les gens que je rencontre, qui sont pas seulement mes interlocuteurs politiques, qui sont des patrons, qui sont des syndicalistes, qui sont des gens de la société civile. Ce qui change, c'est que ces pays sont au plein emploi, c'est que ces pays ont subi l'émigration de leur main-d'œuvre qualifiée, qui sont aujourd'hui en manque de main-d'œuvre, qu'ils ont besoin de faire revenir des gens qu'ils ont formés, qu'ils ont perdus. Ça veut dire que les salaires montent et ça veut dire que la protection sociale monte, parce que sinon, ces pays seront saignés à blanc. Il y a 400 000 Hongrois qui ont quitté la Hongrie. Ça n'est pas tenable.
Oui, donc ces pays sont... Vous décrivez des situations sociales, mais vous ne nous dites pas très concrètement comment, dans les instances européennes où il faut décider à 28, ou souvent pour des décisions très importantes, il faut l'unanimité, comment on fait avancer la cause française?
En matière sociale, il ne faut pas l'unanimité. Donc il faut avoir la majorité, ça veut dire qu'il faut convaincre. Et comme pour les travailleurs détachés, on a fait le tour de l'Europe et on a convaincu en parlant aux syndicats, aux patronats, et finalement on a fait bouger les lignes. Ceux qui disent on ne peut rien faire, c'est ceux qui se sont assis, c'est ceux qui sont allés au Parlement européen pendant 15 ans, toucher des salaires de parlementaires européens, parfois détournés de l'argent, et qui n'ont surtout voulu rien faire. C'est vrai qu'il faut se retrousser les manches et qu'il faut travailler.
Karine. Alors revenons malgré tout sur le salaire minimum, parce que je pense que ça intéresse beaucoup les Français. Le salaire minimum européen, comment est-ce qu'on peut organiser les choses? Est-ce que le salaire minimum français va devoir baisser et le salaire minimum polonais, par exemple, ou roumain va devoir être légèrement augmenté pour trouver effectivement ce salaire moyen médium? Comment on organise la chose très concrètement?
Non, d'abord, c'est pas le même salaire minimum.
C'est
partout.
Adapté à chaque pays.
C'est adapté à chaque pays, mais discuté collectivement et revu tous les ans. D'abord, il y a aujourd'hui 6 pays dans l'Union européenne qui n'ont pas de salaire minimum du tout. Ça, c'est évidemment quelque chose contre quoi il faut lutter. Ensuite, le fait de mettre en place un salaire minimum, ça crée une dynamique qui fait que les partenaires sociaux dans chaque pays, en fonction du niveau de vie, en fonction des besoins de la population, peuvent augmenter ce salaire minimum. Donc on bouge les lignes. C'est évidemment souhaitable et je suis convaincue que c'est faisable. Vous avez raison, les Français en parlent beaucoup, mais pas seulement les Français. L'année dernière, avant le grand débat, il y a eu le frère aîné, qui était un petit frère du grand débat, c'était les consultations sur l'Europe. Elles se sont déroulées partout dans l'Union européenne. Cette idée de salaire minimum européen, on l'a entendue partout. Il faut aussi que la prise de décision se fasse avec les envies des citoyens, avec les propositions des citoyens.
Si le salaire minimum est adapté à chaque pays pour qu'on comprenne bien, il y aura un salaire minimum bulgare ou polonais, salaire minimum français. Dès lors, qu'est-ce qui empêchera le dumping social puisqu'ils seront inégaux et on continuera à délocaliser en Bulgarie où le salaire minimum sera, admettons, trois fois inférieur à celui de la France?
Eh bien, ce que nous proposons, c'est que les fonds européens qui sont versés aux pays de l'Union européenne soient conditionnés à la convergence sociale. Vous demandiez, Karine Becker, est-ce que ça fait baisser le salaire minimum français? Exactement. Évidemment que non. L'objectif, c'est une convergence sociale vers le haut.
Par le haut.
Vous voulez obtenir des fonds européens, vous vous engagez dans la convergence sociale vers le haut. Vous n'en voulez pas de la convergence sociale, vous renoncez aux fonds européens. Il n'y a aucune raison qu'un contribuable français fasse le budget d'un pays à l'est de l'Europe qui, pendant ce temps-là, ne travaille pas à la convergence sociale ou à la convergence fiscale, qui n'améliore pas la situation sociale de ses salariés. Vous savez, aller dans ces pays, vous rencontrez des salariés qui ne veulent plus être des salariés de deuxième classe de l'Union européenne. Ils en ont assez, ils ont les moyens de se faire entendre parce qu'il y a le plein emploi et parce que la main-d'œuvre est sortie.
Il y a un autre sujet, évidemment, qui sera au cœur de la campagne des élections européennes. On peut le parier, même si la campagne n'a pas démarré, c'est la question des frontières, avec la question notamment de Schengen. Tout le monde propose ou de sortir de Schengen, c'est ce que voudrait Marine Le Pen, ou de remettre à plat les accords de Schengen, c'est ce que propose le président de la République, c'est ce que proposent également les Républicains, sans qu'on sache précisément à quoi ressemblerait cette mise à plat. Est-ce que c'est tout simplement l'idée qu'on pourrait dire aux pays qui refusent d'accueillir les migrants sur leur sol, exemple la Hongrie, dire à ces pays-là que si vous ne jouez pas le jeu, et bien dans ces cas-là, on va vous couper les aides et les subventions et vous ne pourrez plus bénéficier de la solidarité financière de l'Union au titre de la cohésion?
C'est plus large que ça, c'est plus volontariste que ça, c'est plus disruptif que ça. Schengen, c'est une richesse. Sortir de Schengen, dire on arrête Schengen, c'est un risque parce que nos propres citoyens bénéficient de la liberté de circulation. Allez voir les frontaliers qui sont frontaliers de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne. Il se trouve que j'étais dans le nord de la Meuse il y a quelques jours, donc je suis allée travailler avec eux. Allez voir ceux qui travaillent ailleurs et qui bénéficient de cette liberté de circulation. Dites-leur, on ferme. Vous les mettez au chômage, vous les mettez en difficulté, donc c'est absurde. Mais cette liberté de circulation, à l'intérieur de Schengen, elle n'a de sens que si, d'abord, on protège les frontières extérieures. Et l'énorme faute qui a été commise par nos prédécesseurs, c'est d'abattre les frontières intérieures sans se donner les moyens de protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. On parle, nous avons demandé l'augmentation des effectifs de l'agence européenne qui sert de garde-frontière et de garde-côte. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien est-ce qu'il y a d'effectifs à Frontex, cette agence européenne de garde-frontière? Est-ce que vous savez combien ils sont pour l'ensemble de l'Union européenne? Ils sont 600. Autrement dit, c'est pas sérieux.
Il en faudrait combien, votre avis?
Nous avons demandé qu'il y en ait 10 000. Ah oui. Pas pour se substituer à tous les gardes-frontières de l'Union européenne, mais pour travailler à leur côté, en particulier quand il y a une crise migratoire ou en particulier quand un pays est déficient. Ce que nous disons, c'est qu'il ne peut plus y avoir de pays déficient. Il ne peut plus y avoir de pays qui dit « Moi, le contrôle des frontières extérieures de l'Europe, ce n'est pas mon problème. » Si, parce que c'est le problème de tout le monde. Donc ce que nous disons, c'est que tout le monde en fasse plus en responsabilité pour le contrôle des frontières, que tout le monde en fasse plus en solidarité quand il y a un afflux migratoire. C'est-à-dire alors la solidarité, les quotas, ça n'a pas marché. Et je comprends que ça n'ait pas marché. Vous ne vous pouvez pas envoyer quelqu'un qui ne veut pas y aller, dans un pays qui ne veut pas le recevoir.
Alors comment
ça n'a humainement aucun sens. Mais la solidarité, ça peut s'exprimer différemment. Vous pouvez envoyer du matériel, des effectifs. Quel est le pays en Europe qui a le plus de gardes frontières nationaux? C'est pas la France.
Et c'est l'Italie.
C'est pas l'Allemagne. C'est pas l'Italie. C'est la Pologne. Il y a 25 000 gardes frontières en Pologne. Ils peuvent en mettre à disposition de Frontex sans difficulté, d'autant plus que le siège de Frontex, il est à Varsovie.
Alors, renforcer les frontières, comme vous en parlez, remettre à plat Schengen, je pose la question à la Jupéiste, on a quand même le sentiment finalement que Nicolas Sarkozy a eu raison avant tout le monde.
Sauf qu'il l'a dit, il n'a pas fait. Nous, on le dit, et ce qu'on dit, on le fait.
Et
depuis deux ans, tout ce qu'on a dit... Le discours de la Sorbonne, vous vous en souvenez peut-être, septembre 2017, Emmanuel Macron donne ses premières idées sur l'Europe.
Ouais, il y avait
une quarantaine de propositions.
Il n'y avait pas de remise à plat sur Schengen.
Une quarantaine de propositions. 22 sont mises en œuvre aujourd'hui. Alors que l'idée, c'était qu'elles puissent être mises en œuvre d'ici 2024. Je trouve que quand on dit les choses, on les fait vraiment.
Vous aviez eu une expression controversée, Madame Loiseau, c'est celle du shopping de l'asile. Alors est-ce que réformer l'espace Schengen, renforcer les frontières de l'Europe, c'est justement finir avec ce que vous aviez appelé, avant de vous en excuser, ce shopping de l'asile dont bénéficieraient ou que pratiqueraient les migrants? C'est ce que vous aviez dit à l'époque.
Alors c'est pas moi qui ai cette expression-là, mais j'ai eu tort de l'utiliser. C'est les technocrates de Bruxelles, et je me suis fait... dévoré par les technocrates de Bruxelles. Vous l'avez peut-être remarqué, ça n'est plus le cas. Mais c'est une expression,
qui est utilisée
pour décrire un phénomène précis. C'est qu'aujourd'hui, les critères pour attribuer l'asile quelque part en Europe sont différents d'un pays à l'autre. Les procédures sont différentes d'un pays à l'autre. Et qui en tire profit? Les trafiquants d'êtres humains, les passeurs, qui baladent d'un pays à l'autre des malheureux qui, évidemment, fuient leur pays pour tout un tas de raisons et en tirent de l'argent. Ce que a également demandé Emmanuel Macron, c'est qu'on harmonise les procédures et les critères d'asile, qu'on ne rende pas service à ces trafiquants
d'êtres
humains.
D'accord, mais vous n'avez pas répondu, Nathalie Loiseau, sur cette question des migrants. Est-ce qu'il est possible de couper les fonds de cohésion à certains pays qui refuseraient de jouer le jeu de la solidarité européenne et d'accueillir des migrants? Et encore une fois, je pense à la Hongrie.
Je reviens à l'idée que forcer des gens qui ne veulent pas y aller à aller dans un pays qui ne veut pas les recevoir, ça n'a pas de sens. Objectivement, ça n'a pas de sens. Vous rajoutez
donc
du malheur au malheur.
Donc remettre à plat Schengen, ça n'a pas forcément beaucoup de sens non plus.
Si, bien sûr, puisque je vous l'ai expliqué, ceux qui ne contrôlent pas leurs frontières, ceux qui ne sont pas solidaires d'une manière ou d'une autre, qui ne donnent pas des crédits, du matériel, des effectifs... La politique migratoire européenne, elle repose sur ce qu'on doit faire vis-à-vis des pays d'origine et de transit des migrants économiques pour que les plus jeunes, les plus dynamiques, les plus courageux restent dans les pays d'origine et les aident à se développer plutôt qu'ils risquent leur vie et leur dignité dans des parcours qui sont épouvantables. J'étais vendredi dans le Val d'Oise avec Aurélien Taché pour rencontrer des femmes victimes de violences conjugales qui sont des femmes migrantes. Quand je me souviens de Marine Le Pen nous parlant d'un migrant fraîchement arrivé, je lui conseille d'aller voir ces femmes et de se demander si elles sont fraîchement arrivées. C'est ça la solidarité, c'est venir en aide aux pays d'accueil, aux pays d'origine et de transit, c'est ensuite renforcer le contrôle des frontières extérieures et c'est se venir en aide quand il y a un afflux migratoire dans l'Union européenne. C'est ce que nous faisons sans cesse quand il y a des naufragés qui arrive sur les côtes européennes. La France est toujours au rendez-vous. Malheureusement, l'Italie a fermé ses ports. L'Italie a fermé les yeux sur ses obligations humanitaires. Ça n'est pas notre cas.
Je voudrais vous poser une question sur le style Macron. Alors, pas tant en France, là, restons en Europe. Avec cette tribune cette semaine, il s'adresse aux 28 pays européens, il s'adresse à tous les électeurs européens. On retrouve le Macron leader, le Macron vertical. Or, l'Europe, c'est quand même la culture de la discussion, du compromis. Est-ce que cette verticalité n'est finalement, malgré tout, pas une gêne, un handicap pour la France?
Nathalie Loiseau.
Alors d'abord, il exerce un leadership qui lui est reconnu partout en Europe. Il est attendu.
Vous êtes sûr qu'il l'est reconnu autant qu'au début? On a l'impression quand même qu'il y a eu des déceptions.
Écoutez, il y a eu des difficultés chez nos partenaires dont je ne me réjouis pas. mais qui font qu'aujourd'hui, plus que jamais, la voix qui porte et la voix qui compte en Europe, c'est celle de la France. Ça, je m'en réjouis.
Auprès de qui, Madame Loiseau,
parce auprès qu'on... de tous nos partenaires, parce que quand quelque chose avance, c'est parce que nous l'avons fait avancer. Quand on va mettre en place un budget pour la zone euro, là aussi, j'ai entendu pendant 2 ans, n'essayez même pas, ça n'est pas possible, les Allemands ne voudront jamais.
Mais le discours de la Sorbonne avait été très écouté, effectivement. Là, on n'a pas
la mise en place d'un budget de la zone euro.
Ça a marché.
Pas imposé, on n'impose pas. Et sur la tribune, il n'y a pas de verticalité, parce que ce n'est pas une décision qui tombe du ciel ou qui tombe d'Emmanuel Macron et qui s'impose aux 28. On nourrit le débat, on fait entendre notre voix. Et notre voix, elle est attendue, elle est nécessaire, et c'est la voix des Français. Moi, si je suis française, je me réjouis que la voix de la France porte en Europe.
On se demande à quoi ressemblera le débat sur l'Europe au moment des élections européennes et de la campagne, mais on peut aussi s'inquiéter de ce qui va se diffuser, des fake news, ou pire encore, du complotisme.
Ça a déjà commencé.
Oui, Philippe de Villiers, justement, à moins de 3 mois des élections européennes, publie « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». C'est un livre complotiste, conspirationniste. Mmh. Il dit en substance que l'Union européenne serait un projet secret de la CIA et la continuation de l'Europe hitlérienne. Qu'est-ce qu'on fait de pavé dans la mare comme cela? Comment est-ce qu'on y répond? Faut-il y répondre?
Écoutez, un ancien président avait dit « ça fait pchit ». Là, pour le coup, je pense que ça fera plouf. Ça fait des décennies que les complotistes répètent que le projet européen est un projet d'anciens nazis qui rend service à la CIA. Ça doit être les mêmes qui ont vu des extraterrestres, qui pensent que la Terre est plate et que les Illuminati dirigent le monde. Il y en aura toujours.
Ces livres sont toujours vendus à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires.
Mais bien sûr, parce que
c'est
la politique divertissement.
Mais est-ce qu'il ne faut pas répondre sur le fond plutôt que de dire...
Et ce sont des gens qui
vous trouvez que c'était pour du divertissement?
Bah, ceux qui
c'est
le
très
disent,
sérieux.
Oui. Ceux qui... Mais c'est pas sérieux une seule seconde.
Je veux dire, il faut prendre au sérieux l'existence de ces idées-là, même si elles vous paraissent absurdes ou folles.
Écoutez, je n'arrive pas à prendre au sérieux des gens qui sont d'ailleurs sortis de la politique et qui refusent toute responsabilité et qui font... Qui font du business en racontant...
Pardon,
en
mais
oui, mais
de Villiers
ça a quand même de l'impact.
Philippe de Villiers cite, par exemple, l'ancien Premier ministre du général de Gaulle, Maurice Couve de Murville. Mm-hmm. Il cite François Fillon, qui aurait dit que sa candidature avait été écartée parce qu'elle n'avait pas l'aval du groupe de Bilderberg, qui est une instance de décideurs
économiques
et politiques.
Oui, bah, il est arrivé 2-3 autres petites choses à François Fillon. Vous n'allez pas dire que c'est une secte secrète qui fait que François Fillon n'est pas aujourd'hui président de la République.
Est-ce que tout est faux?
Peut-être qu'il le pense et peut-être que ça lui fait du bien. Mais enfin, soyons sérieux, 2 minutes.
Françoise.
Alors, soyons sérieux et parlons d'écologie. Parce que dans les propositions d'Emmanuel Macron, il y a notamment cette Banque européenne du climat. On sent que tous les pays en ont besoin, notamment pour financer les investissements. Comment est-ce que concrètement ça peut voir le jour? Là encore, il y a tellement de, si vous voulez, de doutes sur la politique européenne et sur la faisabilité des choses qu'il faut que vous soyez très concrète. Comment on va vers cette Banque du climat?
Nathalie Loiseau.
Regardez 1989. Le rideau de fer s'écroule, le mur de Berlin s'efface. On découvre que l'Europe va pouvoir se réunifier avec sa partie orientale. Et on découvre qu'il y a tout à faire parce que l'Europe de l'Est est à des années-lumière de l'Europe de l'Ouest. On invente la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Et pendant plusieurs décennies, ça marche très très bien. Et ces pays rattrapent tout le temps qu'ils avaient perdu à être sous la coupe communiste et soviétique. Aujourd'hui, quelle est l'urgence à laquelle l'ensemble du continent européen est confronté? La transition écologique, on le sait tous.
On met combien alors dans cette banque?
Le climat ne connaît pas les frontières, on doit agir fortement. Prenons la même logique, mettons en place une banque européenne du climat qui permet de financer des investissements sur l'efficacité énergétique, sur la lutte contre les gaz à effet de serre et sur les renouvelables.
Jean Jouzel dit qu'il faut 1 000 milliards, je crois.
Oui, c'est le chiffre de la roue Tourou. Alors, c'est un chiffre qui est fait pour marquer les esprits.
Il faut dire que c'est eux qui ont eu cette idée. En tout cas, Jean Jouzel et que le président de la République l'a reprise dans sa tribune.
Et je les ai rencontrés, j'ai travaillé avec eux et je suis très heureuse que cette proposition soit dans la tribune.
Donc, la politique dit quoi? 1 000 milliards? Non, un petit peu moins.
Écoutez, maintenant, je continue le travail. J'ai reçu l'un des dirigeants de la Banque européenne d'investissement, une institution qui existe, qui travaille d'ailleurs bien, dont la France est largement bénéficiaire parce que elle finance des investissements sur beaucoup de PME françaises. Je l'ai reçu vendredi pour lui demander si ça lui paraissait faisable et comment il avait envie de le faire. La réalité, c'est que tous ceux qui travaillent dans cette banque n'ont qu'une envie, c'est ça. C'est d'être à la hauteur, au rendez-vous de ce défi considérable qui consiste à pouvoir financer les renouvelables. Pourquoi il n'y a pas plus de renouvelables aujourd'hui en France ? Deux raisons. La première, une réglementation délirante à laquelle Nicolas Hulot avait essayé de s'atteler pour la simplifier, parce qu'il fallait 10 ans entre le début d'un projet d'éolienne et sa concrétisation. Et un manque de financement, parce que les banques sont frileuses, parce que les banques disent « on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne connaît pas ». C'est pour ça qu'il faut un financement européen.
Autre question, et on va quitter l'Europe, même si c'est une question qui concerne aussi l'Europe, c'est celle de l'Algérie. C'est vraiment impossible, Nathalie Loiseau, pour la diplomatie française, sinon de soutenir clairement, au moins de se réjouir publiquement, de voir autant de jeunes Algériens sortir dans la rue, défiler pacifiquement contre un cinquième mandat de Bouteflika. C'est impossible.
Déjà, nous sommes le lendemain d'un samedi, et c'est vrai que quand je vois qu'il est possible de descendre par centaines de milliers dans la rue pacifiquement, ça me fait du bien de voir qu'on n'est pas obligé de tout casser quand on manifeste. Ceci étant, sur l'Algérie, nous avons une histoire ancienne,
bien sûr,
étroite et tourmentée.
Mais c'est impossible d'avoir une position un peu claire ou de soutenir, d'encourager.
Pas du tout, mais est-ce que c'est à nous de faire de la politique en Algérie ?
Non, mais alors pourquoi faites-vous de la politique au Venezuela, Nathalie Loiseau ?
Est-ce que c'est à la France de faire de l'ingérence en Algérie ?
Vous le faites au Venezuela, pourquoi ne pas vous prononcer sur l'Algérie ?
En Venezuela, il y a 4 millions de Vénézuéliens qui ont fui leur pays. C'est une crise internationale aujourd'hui. Au Venezuela, quand on essaye d'amener de l'aide humanitaire au Venezuela, où les gens vont tellement mal qu'il n'y a plus d'électricité et que les hôpitaux sont...
Non, mais c'était juste pour comprendre. En fait, il est impossible pour les autorités françaises de dire quoi que ce soit sur l'Algérie d'aujourd'hui.
Pas d'ingérence.
Mais il ne s'agit pas de faire de l'ingérence.
Nous, moins quiconque. Si, c'est pas à nous de dire qui doit élire, qui les Algériens doivent élire. Mais pas d'indifférence non plus. Il y a des centaines de milliers de personnes qui vivent en France et qui ont la nationalité algérienne, qui vivent très profondément, de manière très émotionnelle, ce qui est en train de se passer. Moi, ce que je souhaite, c'est que les aspirations du peuple algérien soient respectées et écoutées par les dirigeants algériens.
Alors, tournons la question autrement. Quel rôle s'assigne la France dans cette période ?
Un rôle de partenaire du peuple et du pays qu'est l'Algérie, pays qui, quand il va bien...
Vous êtes partenaire de ce pouvoir ?
C'est pas nous à choisir le pouvoir algérien. C'est pas nous à dire on n'en veut pas, on en veut un autre, changez-le. Il y a un processus électoral, il y a des candidatures qui ont été déposées, il va y avoir une élection présidentielle. Il y a des manifestations. Nous espérons que le processus soit transparent, qu'il soit démocratique, et nous espérons que les aspirations du peuple algérien soient respectées.
Mais cette jeunesse, elle a envie de bâtir ce pays. Carine. Elle se sent coincée, en fait, dans ça. Cette jeunesse, du coup, regarde en direction de l'Europe, de la France, entre autres, mais j'imagine pas que de la France. Mm-hmm. Donc là, il y a quand même aussi un nœud à dénouer.
Et cette jeunesse, elle prend en main son destin, elle n'a jamais dit à la France ou à quelqu'un d'autre de le prendre à sa place.
Jeff ?
J'avais une question, mais je ne sais pas s'il nous reste assez de temps.
Il reste très peu de temps.
Très peu de temps, mais en quelques mots, comment vous souhaitez que l'on sorte en France du grand débat ? C'est le 15 mars, normalement. Faut-il des lois ? Faut-il un référendum, comme ne l'a pas écarté le président ?
Nathalie Loiseau.
D'abord, il faut voir ce qui sort du grand débat. Le grand débat, c'est 1,5 million de contributions en ligne. C'est 10 000 réunions à travers la France.
Et maintenant ?
C'est un vrai succès démocratique. C'est une vraie invention à côté de la démocratie représentative,
mais il reste
à la place.
Et 30
il faudra
secondes, Nathalie
Loiseau,
pour
à débattre
dire à Jeff comment on en
sort. L'avenir.
Comment on en sort.
Mais écoutons ce que les Français nous ont dit. Il y aura des mesures qui seront certainement législatives. Il y aura aussi des changements de pratiques. Et le président n'a pas écarté un référendum. Ça n'est ni un tabou, ni la solution. Ce qu'il faut, c'est pouvoir écouter ce que les Français proposent. Et il y aura un avant et un après grand débat.
Merci Nathalie Loiseau, merci d'avoir été l'invitée de Questions Politiques. L'émission se termine, bon dimanche et merci à tous les trois. Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique. À la semaine prochaine.